Et vous nous avez fait peur.
Oui, mais c'est la tristesse de la vie dans les grandes agglomérations.
Je dis ça parce qu'il n'était pas tout à fait arrivé. Voilà. Mais enfin, ça, je dis ça pour détendre l'atmosphère.
Merci donc de cette invitation. Merci Pierre de ce que vous venez de dire. Et merci aux organisateurs d'essayer de se poser cette question de ce que j'appellerais la physique et la métaphysique des œuvres, qui quelque part interpelle tous les praticiens que nous sommes, que ce soit les archéologues sur le terrain, les conservateurs dans leurs musées, les chercheurs dans leurs laboratoires, et je dirais en général le public cultivé, qui se pose la question de la traçabilité, de la lisibilité, de la pertinence des œuvres exposées dans leur rapport avec les collections qui les ont constituées. Et quand on commence à dérouler les questions qui sont posées aujourd'hui, on voit qu'elles affectent tout le spectre de nos comportements. Dans le monde grec, et plus particulièrement le mien, il est coutume et courant de voir des objets s'animer. Les tout premiers objets animés sont en quelque sorte les objets qui, parlant, dont les premières attestations sont le fait de l'Iliade et de l'Odyssée, des objets qui énoncent d'où ils viennent, qui les a fait fabriquer, qui les a dérobés, qui les a gardés. Et de cette généalogie qui est très importante, les collections des temples portaient naturellement la trace et s'ingéniaient à expliquer que ces objets qui faisaient la richesse du trésor du temple étaient arrivés à des périodes et dans des moments très singuliers. Le deuxième type d'objets, mais qui sont plus que des objets en Grèce, parce que les termes qui les définissent sont d'une complexité extrême, ce sont les statues. Alors, nous disons statues, mais les Grecs disaient agalma, les Grecs disaient eudrima, les Grecs disaient eikon. Le vocabulaire du monde des images et des images en relief en particulier, et d'une complexité telle qu'aujourd'hui, même encore, malgré les efforts des hellénistes, nous n'avons pas trouvé des catégories stables. Ce qui reste en tout cas de la dimension, je dirais, animée des statues, c'est qu'on peut les poursuivre. Si une statue tombe sur quelqu'un dans un temple, on peut engager une procédure. Et de la même manière, si une statue estime qu'on lui a manqué de respect, elle peut très bien se venger contre le comportement du perpétrateur. Elle peut tomber sur lui, et donc les juges vont essayer de savoir ce qui s'est passé. On peut même, et ça englobe aussi, je dirais, une certaine dimension érotique qui aurait fait très plaisir à Freud, parce que la statue peut être un élément de désir. Et donc ce désir érotique qui va s'exprimer, voire se consommer dans le temple, peut aussi être l'occasion, nous en avons plusieurs exemples, d'un procès. Vincent Azoulay a donné un très joli livre qui traite de cela. Je ne m'étends pas, mais j'attire votre attention sur un petit épisode d'Histoire comparée. Vous avez tous entendu parler des trépieds animés d'Héphaïstos, le dieu des intelligences mécaniques, dispose de trépieds, et ces trépieds, par le simple vouloir du dieu ou des gens auxquels il a donné délégation, peuvent se rendre utiles et les rejoindre. Il se trouve qu'en Chine, en Chine archaïque, on a aussi des trépieds qui sont animés, mais dont l'animation, dont l'être au monde, dépasse largement la fonctionnalité. Dans un récit qui date du 7e siècle avant Jésus-Christ, on nous raconte un conflit entre deux États. Le roi d'un des États, Shu, et l'autre de Zhou, sont en quelque sorte interpellés par un conflit de frontières. Et l'un des rois envoie une délégation au second. Le roi de Zhou envoie une délégation au vicomte de Shu. Dès que l'ambassadeur se présente devant lui, le vicomte pose une étrange question. « Peux-tu me dire la taille et le poids des 9 tripodes ?» Qu'est-ce que sont les 9 tripodes ? Les 9 tripodes sont les symboles d'une certaine unité de la Chine qui remonte à la proto-histoire, aux ancêtres Xia, et qui chacun, dans leur catégorie, incarne à la fois la diversité et l'unité de la culture chinoise. Les posséder, c'est posséder ce qu'il y a de plus rare, de plus fantastique, de plus cher. L'ambassadeur comprend tout de suite pourquoi on lui pose cette question. Il répond : les tripodes n'ont pas d'importance. C'est la vertu qui importe. Dans le passé, quand la dynastie Xia a été distinguée pour ses vertus, les régions éloignées envoyèrent des images des êtres qui les identifiaient. Et les 9 pasteurs envoyèrent le métal de leur province. Les tripodes furent coulés et des images de ces êtres y furent représentées. Une harmonie fut ainsi établie entre le haut et le bas, et tous bénéficièrent des grâces du ciel. Quand les vertus de Jie, le dernier d'Exia, en vinrent à se ternir complètement, les tripodes furent transférés chez les Shang pour 600 ans. Zhou, le premier roi des Shang, se révéla cruel et intolérant, et ils furent transférés chez les Zhou. Quand la vertu est digne de louange et brillante, les tripodes, quoique petits, deviennent très lourds. Quand c'est le contraire, noirceur et désordre, même s'ils sont très grands, ils deviennent très légers. Le ciel accorde ses grâces à la vertu intelligente et ses faveurs demeurent. Le roi Sheng de Zhou retint les tripodes à Jiarou, sa capitale, et il prédit que la dynastie durerait 30 règnes sur 700 ans. Quoique la vertu de Zhou ait décliné, les décrets du ciel ne sont pas encore changés. On ne doit pas poser la question sur le poids du tripode. Parce que si on pose la question sur le poids des tripodes, eh bien, on met en cause, je dirais, la structure même du pouvoir. Quel rapport y a-t-il entre ces objets magnifiques et les chaudrons des Grecs? Les 9 tripodes incarnent la vertu maximum matérialisée par leur capacité à se refuser à un pouvoir cruel ou intolérant. Et pour ce faire, ils doivent non seulement disposer d'une réserve, je dirais, d'intelligence, mais d'une capacité à s'exprimer. Face que les chaudrons, quand ils seront terminés, est un corps carré et 4 pieds. Face qu'ils puissent bouillir sans petits bois, qu'ils puissent se cacher sans qu'on les déplace, et qu'ils se meuvent sans qu'on les porte, en sorte qu'ils puissent être utilisés pour le sacrifice. Donc, non seulement les chaudrons ont un vouloir, mais les chaudrons sont capables de performances qui en font des objets quasi animés. Que dit le grand Héphaïstos de ces chaudrons à lui ? Héphaïstos, nous dit l'Iliade, forgeait 20 tripodes disposés dans la grande salle, au mur bien droit, au pied de chacun d'entre eux. Il avait adjoint des roues en or pour qu'ils puissent d'eux-mêmes, au tomatoï, se rendre à l'assemblée des dieux et s'en revenir aussitôt à sa demeure. Les tripodes enchantés d'Héphaïstos sont des prolongements animés du savoir-faire de leur concepteur. Ils sont destinés à rendre des services bien précis. Cette capacité d'animation ne transforme pas cependant les objets en sujets. Aristote commente ce célèbre passage dans ces mots qui sont fondamentaux. Si chacun instrument pouvait par ordre ou par pressentiment accomplir son œuvre propre, si pareil au statue légendaire de Dédale ou au tripode d'Héphaïstos, les navettes tissaient d'elles-mêmes et les plectres jouaient de la cithare, alors les maîtres d'œuvre n'auraient nul besoin de manœuvres, ni les maîtres d'esclaves. Donc vous voyez que ce n'est pas une question seulement théorique, c'est une question de philosophie politique qui transcende la nature même des objets. Et la différence énorme entre les Grecs et les Chinois, c'est que les Chinois donnent aux tripodes une valeur politique, je dirais, quasi institutionnelle. En les définissant, ils énoncent ceci dans un fameux traité. Les tripodes sont l'essence à la fois de la solidité et du raffinement. Ils connaissent les présages favorables et défavorables, et ce qui perdure et ce qui périt. Ils peuvent être pesants ou légers, ils peuvent être mobiles ou à l'arrêt, ils cuisent sans feu et sans qu'on puise de l'eau, ils sont naturellement pleins. Les tripodes divins apparaissent quand un gouvernant s'élève au pouvoir et disparaissent quand il tombe. On ne peut pas dire plus clairement que ces objets sont en quelque sorte des monuments animés. Vous savez que dans la définition occidentale du monument, le terme vient de monere, hein, selon la formule de saint Augustin. Les monuments nous avertissent, monumentum eo quod moneat mentem, ides ad moneat, non cupatur. Le monument incarne ce par quoi l'esprit est averti, ce qui fait souvenance. Les vases de bronze rappellent à leurs heureux possesseurs le souvenir de l'unification de la Chine qui passe par l'acceptation du pouvoir éminent du souverain. Ils sont la mémoire palpable d'un moment décisif de l'histoire, mais aussi des instruments sacrificiels que seul le roi ou des membres des familles régnantes peuvent utiliser pour honorer la mémoire des ancêtres. Le caractère unique de leur pouvoir tient à ces multiples niveaux de symbolisme. Et cette polysémie des objets est une part, je dirais, d'un héritage comparatif. Chacun dans son genre, les Grecs et les Chinois, ont créé des catégories d'objets, et ces catégories d'objets sont plus que des miroirs, ce sont des instruments de dialogue, de discussion et de mise en cause.